Et voici Anne-Laure Chouin pour le journal. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Comment est vue depuis Pékin la visite de Xi Jinping en France? Plutôt d'un bon œil, nous dira notre correspondant sur place.
Nous ferons en Ukraine où les femmes des militaires du régiment Azov, toujours prisonniers en Russie, se battent pour leur retour.
Et puis nous ferons un point sur l'attitude des électeurs français par rapport aux élections européennes. Après ce journal, quelle question du jour, Marguerite Caton?
Que sait-on de l'antisémitisme en France après le 7 octobre?
Réponse à 7h15. Une trêve olympique, c'est ce qu'a proposé hier à Emmanuel Macron le président chinois Xi Jinping, reçu à Paris depuis hier en visite officielle. Une trêve, cela signifie que sur le fond, les divergences sont réelles et parfois profondes, notamment sur le sujet du commerce. L'Europe accuse la Chine de distorsion de concurrence dans plusieurs secteurs, mais aussi sur la guerre en Ukraine. Pékin reste jusqu'à aujourd'hui le principal allié de Moscou dans ce conflit. Et c'est sur ce sujet que le président chinois a préféré calmer le jeu en proposant une trêve, donc le temps des JO de Paris. Mais depuis la Chine, comment cette visite est-elle envisagée? Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Pékin. La presse officielle chinoise souligne l'importance de ce déplacement à Paris qui est censé améliorer les relations compliquées, on le disait, de la Chine avec l'Union européenne.
Oui, alors les Chinois sont toujours attachés au symbole et la presse officielle ici à Pékin souligne le faste qui a été réservé à Xi Jinping. Le Global Times explique que le président chinois a eu droit à un cortège impressionnant composé notamment de 146 cavaliers de la garde républicaine. Depuis dimanche, la visite de Xi Jinping fait évidemment la une de tous les journaux de la télévision chinoise. L'importance stratégique des relations sino-françaises est mise en avant. Sur le réseau X, l'éditorialiste Ru Xijin explique que Paris exerce une position de leader en Europe et que dans ces conditions, la consolidation des relations avec la France permettra de régler une grande partie des affaires sino-européennes. Analyse très optimiste qui élude la fermeté des échanges hier sur les désaccords commerciaux. Sans surprise, la presse officielle ne reprend pas les propos d'Ursula von der Leyen sur le commerce déloyal de la Chine. Enfin, sur l'Ukraine, le quotidien du peuple martèle la réponse du président chinois aux accusations occidentales. La Chine, peut-on lire, n'est ni à l'origine de la crise, ni partie prenante, mais joue un rôle actif pour parvenir à la paix.
Sébastien Berriot, merci. Les deux chefs d'État devraient se parler plus directement aujourd'hui lors d'une escapade, dixit l'Élysée. Dans les Pyrénées. Une trêve acceptée par le Hamas, mais des conditions qui ne conviennent pas à Israël, qui continue de bombarder Rafah ce matin. À Gaza, la guerre ne désarme pas, alors que de nouveaux pourparlers doivent se tenir aujourd'hui au Caire. On reparle d'Ukraine, où les assauts russes s'intensifient avant l'arrivée des munitions américaines dans les rangs de l'armée de Kiev, et où certaines familles n'ont plus de nouvelles de leurs fils, pères ou maris depuis 2 ans, depuis la défaite de Mariupol, où quelques 1200 combattants du régiment Azov finissaient par se rendre le 16 mai 2022. 2 mois plus tard, certains d'entre eux étaient victimes d'une attaque dans leur prison près de Donetsk. Depuis, des familles se battent pour le retour en Ukraine de ceux qui ont survécu. Le reportage à Kiev de Virginie Pironon.
Le conjoint de Maria, Sergei, a été grièvement blessé 2 fois. D'abord au combat, puis lors de l'attaque de la prison d'Alenivka. Mais la jeune femme de 26 ans, sourire triste, regard figé, n'a depuis aucune nouvelle de lui, à part 50 petites secondes d'une vidéo diffusée quelques jours après l'attaque par la propagande russe.
Mon mari était allongé sur un lit d'hôpital, les propagandistes russes lui demandaient ce qu'il avait entendu pendant l'attaque, etc. Sergei avait l'air épuisé. On pouvait voir sur son visage qu'il avait été blessé, peut-être par des éclats d'obus, mais dans cette vidéo, il dit être blessé à la jambe.
1 mois avant le début de la guerre à grande échelle, Anna a accouché d'une petite fille qui n'a jamais revu son père. Aler Lobov, 32 ans, est lui aussi détenu en Russie, probablement victime de torture, dit-elle. Personne ne sait précisément où il se trouve et dans quel état de santé.
Je ne peux pas dire qu'il ne se passe rien du côté des autorités. Il y a bien des échanges de prisonniers. Ce n'est pas que je suis en colère, c'est juste qu'on ne comprend pas pourquoi la situation avec les prisonniers du bataillon Azov est bloquée. C'est incompréhensible. Bien sûr, c'est déprimant parce qu'on ne sait pas quoi faire de plus.
C'est douloureux, poursuit Anna. Nos maris, dit-elle, se sont battus en héros. Ils ne doivent pas être oubliés.
Ce conflit ukrainien figure parmi les principaux sujets de la campagne des élections européennes le 9 juin prochain, avec également la politique climatique et agricole, les prix de l'énergie ou encore l'immigration. Autant de thèmes dont ont débattu les têtes de liste françaises de ce scrutin de liste proportionnel à un tour, on le rappelle. Depuis hier, ces listes au complet commencent à être déposées au ministère de l'Intérieur. Focus dans ce journal sur les candidats des petits partis de la gauche dite révolutionnaire que nous détail, Sophie Delpont.
Pour Nathalie Arthaud, tête de liste Lutte ouvrière, ces élections doivent permettre de faire entendre la voix des pourfendeurs d'une Europe libérale et lutter contre les nationalismes.
Sans ambiguïté, je pense qu'on est identifié, grâce y compris au combat d'Arlette Laguiller, comme le camp des travailleurs. Nous combattrons jusqu'au bout toutes ces idées nationalistes qui sont un véritable poison. C'est la raison, nous, pour laquelle nous restons fidèles à l'appel de Karl Marx, travailleurs de tous les pays. Unissons-nous.
Mais il n'y a pas d'union entre les partis de la gauche révolutionnaire. Le Parti des travailleurs présente lui aussi une liste menée par Camille Adou, 24 ans, qui revendique une position spécifique sur la guerre en Ukraine et à Gaza.
Nous, sur la question de la guerre, on est aujourd'hui la seule liste à dire et à affirmer ce mot d'ordre central dans notre campagne, c'est pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre. Et donc on est pour la réquisition de ces milliards pour les services publics.
Alors qu'une frange du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, scindé depuis fin 2022, présente lui aussi une liste menée par Gaël Quirante, postier contestant son licenciement, et Selma Labib, conductrice de bus en région parisienne. Elle défend l'existence de ces différentes listes.
Ce qu'on veut exprimer en priorité, c'est la rage de tous les travailleurs et les travailleuses qui sont et ont été en première ligne, qui ont payé et qui payent la facture de l'inflation, de toutes les attaques du gouvernement. Et c'est la même force qui s'exprimera, que ce soit nous, Nathalie Arthaud ou Camille Adou.
Alors qu'en 2019, il n'y avait en lice qu'un seul parti trotskiste révolutionnaire, la liste menée par Lutte ouvrière n'avait réuni que 0,8% des suffrages exprimés aux dernières élections européennes.
Premier enjeu de ces élections européennes toutefois, c'est la participation. En France, elle est traditionnellement assez faible pour ce scrutin transnational, à peine au-dessus des 50%. Les raisons du désintérêt sont multiples. Écoutez le politologue Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, coprésident de l'ONG A Voter, qui milite pour lever les freins à la participation électorale. Selon lui, les électeurs français expérimentent une sorte de distance par rapport au lieu de pouvoir européen.
On pourrait, s'il fallait en citer quelques-unes, parler peut-être de la distance symbolique et politique entre les citoyens et les institutions européennes. Et on pourrait aussi peut-être évoquer la question du fait que les citoyens aujourd'hui ne se figurent pas le Parlement européen comme un lieu de pouvoir, alors qu'il est sûrement faute à une campagne qui est très portée sur des enjeux nationaux. Certains font de cette campagne le premier tour de l'élection présidentielle dans 3 ans. D'autres font de cette campagne une sorte de primaire ouverte pour savoir qui arrivera en tête dans son espace politique. D'autres encore font de cette campagne un référendum pour ou contre le président de la République. Donc finalement, sur des enjeux qui sont assez loin de la réalité des questions du Parlement européen. Et en fait, on se retrouve un peu toujours dans le même scénario. On s'inquiète de l'abstention quelques semaines avant le scrutin. Le jour du vote, comme on ne peut pas parler d'autre chose, eh bien, on analyse les raisons de cette abstention, les solutions qu'il faudrait mettre en place. Et puis le lendemain, on a tout un tas de discours sur le renouveau démocratique et de propositions concrètes. Et on voit bien que ce n'est pas mis en œuvre derrière et que ça ne suit pas. L'enjeu, ça va aussi être à un moment de traduire des engagements de manière concrète, pas seulement sur les plateaux télé à 20h quand on regrette que la moitié de la population ne soit pas rendue au vote.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge.
7h09 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin. Il n'y aura pas de signature commune en bas du rapport des députés sur la TNT.
La majorité des 30 membres de cette commission d'enquête parlementaire sur la télévision numérique terrestre, qui devait remettre aujourd'hui son rapport au gouvernement, refuse de signer le texte en l'état. Selon France Info, les députés membres du Rassemblement National considèrent que la commission, présidée par le député LFI Aurélien Saint-Aul, est ouvertement hostile à Vincent Bolloré. Et puis 16 autres députés trouvent, eux, que 19 des 43 propositions portées par la gauche sont inacceptables ou dangereuses, notamment l'interdiction pour les chaînes d'information d'avoir des éditorialistes à l'antenne, prochaine, la fin de la TNT payante ou encore le bannissement des dessins animés avant l'école. C'est la première étude du genre. L'OFDT, l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, a publié hier les résultats d'une enquête menée pendant 3 mois sur 1094 hommes incarcérés partout en France pour tenter de quantifier la consommation de substances psychoactives en milieu carcéral, d'où il apparaît qu'un détenu sur 4 fume du cannabis tous les jours en prison. L'étude souligne aussi, Thomas Pinaroli, que la prison est en soi un accélérateur de la consommation de cannabis et de tabac.
Oui, les hommes détenus sont 2,5 fois plus nombreux à fumer du tabac que le reste de la population. Plus de la moitié le fait quotidiennement. Ils sont même 8 fois plus à consommer du cannabis en prison qu'à l'extérieur. Et ce, quel que soit le motif de la peine, sa durée et le lieu d'incarcération. Des chiffres qui tiennent au profil des détenus, estime Odile Maki, responsable du pôle enquête à l'Observatoire international des prisons.
On incarcère beaucoup de personnes qui sont précaires, qui sont plus sujets à des addictions, des personnes souffrantes, quoi, qui ont des pathologies, qui sont incarcérées pour des questions de trafic de stupéfiants.
Effectivement, l'étude montre que ceux qui fument consommaient déjà avant leur incarcération et ils ramènent donc leur réseau en prison. La moitié des prisonniers interrogés estiment qu'il leur est facile de se procurer du cannabis. Odile Maki pointe aussi du doigt les conditions de détention et la surpopulation carcérale.
La plupart des personnes restent 22 à 23 heures sur 24 en cellule. C'est des personnes qu'il faut avant tout soigner. Alors il y a des dépistages qui sont organisés en début d'incarcération. Il y a des interventions, des ateliers collectifs, mais c'est très insuffisant. Le suivi médical des addictions n'est pas dimensionné pour faire face à cette problématique.
La prison n'est en revanche pas un lieu où on commence à se droguer. 9 détenus sur 10 qui ne fumaient pas de cannabis avant leur incarcération n'ont jamais fumé en prison. Quant aux autres substances, elles sont plus rares. Les détenus boivent beaucoup moins d'alcool que le reste de la population et seul un prisonnier sur 10 a déjà consommé des drogues dures type cocaïne, crack ou héroïne.
Enfin, il avait incarné mieux que personne le livre à la télévision. Bernard Pivot est mort hier à l'âge de 89 ans. Président du jury Goncourt, animateur de 2 émissions littéraires cultes à la télé, donc Apostrophe et Bouillon de Culture. On lui doit également les 10 Codor, un championnat de dictée qu'il animera pendant 20 ans. Quoi qu'on pense de ses talents de critique littéraire, Bernard Pivot avait réussi à faire vendre des livres à l'heure des médias de masse. Il était le 27 avril 2012 au micro de Laure Adler dans l'émission de France Culture Hors Champ. Il racontait sa passion pour les mots.
On n'avait que 2 livres à la maison et on ne pouvait pas acheter de livres. Vous imaginez, pendant la guerre, où, d'ailleurs, quand vous êtes dans un petit village du Beaujolais, où donc allait acheter des livres. Et donc, j'avais que 2 livres. J'avais une vieille édition du Petit Larousse et puis les Fables de La Fontaine. C'est tout ce que j'avais. Et donc, j'ai...
Ça suffit, hein.
Oui, mais donc, le premier livre que j'ai lu, c'est le Petit Larousse. Donc, j'adorais, avec mon petit doigt, je regardais là, comme ça, je suivais les lignes et j'allais d'un mot à un autre, comme dans un rallye. Et donc, je peux dire que j'ai lu un dictionnaire avant de lire un roman.
Mais vous êtes resté amoureux.
Et je suis resté amoureux des mots. Je suis resté amoureux des mots parce que je trouve que on ne leur rend pas assez hommage d'ailleurs aux mots parce que ce sont des compagnons, des amis, des serviteurs, des esclaves. Ce sont des amants, ce sont des amantes, ce sont les mots nous habitent complètement. On vit avec eux sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fait là tous les deux là? On se balance des mots les uns les autres et il y a des auditeurs qui écoutent les mots que nous échangeons. Et évidemment, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a des êtres étranges qu'on appelle des écrivains et qui prennent ces mots, qui en font des phrases, et ces phrases ont plus de talent, ont plus de charme, ont plus de force que les phrases d'autres personnes. Et ces gens-là, ce sont des artistes. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rendre hommage toujours aux mots.
Bernard Pivot dans Hors Champ, une émission que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr. Le temps de ce mardi, il reste frais et agité sur une grande partie du pays, sur le nord-ouest et le nord, 2 belles éclaircies dans la journée. Les températures 6 à 10 degrés ce matin, 17 à 21 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins avec vous.
Merci Anne-Laure Chouin.
Oui, c'est ça, voilà.
Alors, merci Anne-Laure Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton, que sait-on de l'antisémitisme en France après le 7 octobre.